Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 10 mars 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « De la Bosnie au Canada, des rassemblements massifs ont eu lieu en soutien à la Palestine ». Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'invasion israélienne de Gaza, le fossé se creuse au sein de l'Union européenne. Israël pourrait utiliser des armes chimiques à Gaza. Et puis, la Journée internationale des femmes célébrée en France. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. De profondes divisions au sein de l'Union européenne à propos de la guerre menée par Israël contre Gaza montrent que le bloc est en déclin. L'Union européenne est marquée par des divisions croissantes à propos de la guerre génocidaire menée par Israël contre les Palestiniens à Gaza qui montrent que le bloc le plus puissant du monde est en déclin rapide. Les 5 mois d'assaut israélien sans merci contre le territoire côtier assiégé ont non seulement démasqué le vrai visage de la communauté internationale, mais ont également mis à nu de profondes lignes de fracture au sein de l'Union européenne. Les dirigeants de 27 pays européens se sont limités à émettre des déclarations passives sur l'envoi d'aide humanitaire à Gaza tout en refusant de lancer un appel sans ambiguïté à un cessez-le-feu complet ou de faire pression sur le régime occupant pour qu'il mette fin à sa campagne militaire meurtrière sur Gaza. Après avoir condamné les opérations des groupes de résistance palestiniens et souligné le soi-disant droit de Tel Aviv à se défendre, le Conseil de l'Europe a appelé dans sa récente déclaration à un accès sans entrave à l'aide humanitaire pour la population de Gaza, y compris par des couloirs humanitaires. Le bilan des victimes de l'attaque contre Gaza, qui a débuté le 7 octobre, approche désormais les 31 000 personnes. Plus de 72 000 personnes ont également été blessées, tandis que des milliers d'autres restent portées disparues. 72% des victimes sont des femmes et des enfants. La guerre israélienne contre Gaza a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de la bande assiégée dans un contexte de grave pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon l'ONU. Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza. Toutefois, la campagne génocidaire de l'occupation israélienne se poursuit sans relâche et les livraisons d'aide restent malheureusement insuffisantes pour faire face à la catastrophe humanitaire. Israël pourrait utiliser des armes chimiques à Gaza, prévient l'Algérie. L'Algérie met en garde contre l'éventuel usage par Israël des armes chimiques à Gaza. L'Algérie a alerté l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, concernant l'usage potentiel d'armes chimiques par Israël dans sa guerre contre la bande de Gaza. Ce régime s'obstine à violer le droit international, a déclaré Salima Abdelhak, représentante permanente de l'Algérie auprès de l'OIAC lors de la 105e session du Conseil exécutif tenue à La Haye. La journée internationale des femmes célébrée en France. En France et partout dans le monde, des femmes et des hommes sont descendus dans la rue pour célébrer la journée internationale des femmes. À cette occasion de la journée internationale des droits des femmes, des manifestations et des grèves ont été organisées partout en France par des femmes et des hommes qui soutiennent leur combat pour l'égalité. En octobre 1789, la marche des femmes à Versailles a appréhendé le roi de l'époque dans son luxueux palais et l'a traduit en justice à Paris. Mais il reste beaucoup à faire dans la France républicaine. Seuls 37% des sièges du Parlement français sont détenus par des femmes. Les deux tiers des travailleurs pauvres en France sont des femmes, en partie parce que les femmes représentent 80% des travailleurs à temps partiel en France. À l'échelle mondiale, 60% des pauvres sont des femmes et sont payés 23% de moins qu'un homme pour le même travail. En plus, elles consacrent 2 heures et demie de plus aux tâches domestiques que les hommes. En France et dans une grande partie de l'Occident, les femmes souffrent d'une objectivation généralisée et d'une marchandisation de leur corps. La France autorise l'utilisation de femmes nues dans la publicité publique. Selon beaucoup de gens, cela porte atteinte à la prétention habituelle de la France d'être un modèle féministe que d'autres pays doivent imiter. Un grand nombre de manifestants israéliens qui se sont réunis samedi à Tel Aviv pour exiger un accord avec le Hamas ont bloqué l'Ayalon, autoroute névralgique de la ville. Selon les médias israéliens, la police s'est heurtée aux manifestants alors que ceux-ci exigeaient la libération des captifs israéliens à Gaza devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des centaines de manifestants israéliens ont bloqué samedi 9 mars l'Ayalon à Tel Aviv lors d'une manifestation monstre à laquelle ont participé des milliers de personnes. Un groupe de policiers à cheval a dispersé des manifestants anti-gouvernementaux qui ont réussi à bloquer partiellement l'autoroute centrale, a rapporté dimanche la correspondance de Spoutnik. D'autres villes dans les territoires occupés ont vu défiler des milliers de personnes contre le cabinet Netanyahou et en faveur d'un accord avec le Hamas, notamment à Rots. À Rots occupée, des manifestants opposés à la guerre à Gaza se sont rassemblés devant la résidence du Premier ministre. Vendredi, les colons ont protesté contre la politique du cabinet d'extrême droite de Netanyahou et l'ont appelé à parvenir immédiatement à un accord et à laisser quelqu'un d'autre conclure l'accord s'il ne pouvait pas le faire. Samedi, le porte-parole militaire des brigades Al-Qassam, Abu Obaïda, a révélé les noms de 4 prisonniers israéliens tués dans les bombardements israéliens de la bande de Gaza. Après avoir soigneusement examiné l'identité des captifs tués, Abu Obaïda a confirmé samedi dans une brève déclaration la mort de ses prisonniers. Le chef de la diplomatie iranienne a rencontré samedi 9 mars le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Les deux parties ont souhaité le renforcement des relations entre leurs deux pays voisins. Lors d'une réunion à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et le vice-ministre arménien des Affaires étrangères Vahan Kostanyan ont plaidé pour le renforcement des relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, scientifiques et culturels. Amir Abdollahian a mis l'accent sur l'importance de la poursuite des efforts conjoints pour donner de l'essor à la coopération entre l'Iran et l'Arménie. Le développement des relations tous azimuts entre les deux pays renforcera la paix et la sécurité durable dans la région sans la gérance des États étrangers, a-t-il souligné. L'autorité arménienne a pour sa part transmis les salutations du ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan à son homologue iranien et a réitéré que l'Arménie attachait une importance particulière à l'expansion des relations avec l'Iran qu'elle considérait comme efficace et utile pour la garantie de la stabilité et de la sécurité régionale. Il a présenté un rapport sur ses entretiens antérieurs avec son homologue iranien Ali Borelikhani qui ont eu lieu dans le cadre du nouveau pour de consultations politiques entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays. Il a qualifié ces discussions de fructueuses. Il a salué la participation des entreprises iraniennes dans les projets d'infrastructure arméniens et a loué les positions de l'Iran sur le maintien de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et du non-changement des frontières internationales nationalement reconnu. Autre thème dans l'actualité iranienne, les États-Unis, l'Europe et les organisations internationales n'ont pas l'intention de faire cesser les crimes que commet Israël contre les femmes et les enfants palestiniens de la bande de Gaza, a déploré le samedi 9 mars le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani. Le régime criminel d'Israël a reçu l'assurance qu'il avait les mains libres pour mener à bien son projet de nettoyage ethnique et de génocide des Palestiniens sans avoir à rendre de compte, a-t-il écrit dans un message sur son compte X. 70% des victimes sont des femmes ou des enfants. Deux mères sont tuées toutes les heures, a-t-il regretté, faisant allusion au message de Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, posté le vendredi 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Borrell a confirmé des chiffres terribles qui n'échappent à personne et dont tout le monde est témoin chaque jour, a ajouté le porte-parole iranien. Enfin, le chef de l'Organisation des industries aéronautiques du ministère de la Défense iranienne, soulignant que l'Iran est soumis à des sanctions dans le secteur aéronautique depuis plus de 40 ans, a déclaré « Malgré ces sanctions, l'industrie aéronautique du pays n'a pas arrêté. Aujourd'hui, nous répondons à nos besoins dans le domaine aéronautique », se félicite Amir Afshin Khajefard, chef de l'Organisation des industries aéronautiques du ministère de la Défense, lors de sa visite d'une exposition organisée par l'aéroport international de Payam dans la province d'Alborz, près de la capitale Téhéran. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. De la Bosnie au Canada, des rassemblements massifs ont eu lieu en soutien à la Palestine. Alors que la guerre menée par le régime d'Israël est entrée dans son sixième mois et que la famine sévit dans l'enclave palestinienne, des manifestations se poursuivent dans le monde entier pour condamner le génocide en cours dans la bande de Gaza assiégée. De nombreuses villes du monde ont été samedi 9 mars le théâtre de manifestations massives pour dénoncer le génocide en cours à Gaza qui a fait plus de 30 000 morts parmi les Palestiniens. La plus grande manifestation a eu lieu à Londres, le cinquième rassemblement pro-palestinien de cette année où plus de 450 000 personnes se sont rassemblées devant l'ambassade américaine en brandissant des drapeaux et des banderoles, appelant à un cessez-le-feu à la fin de l'agression. La ville de Manchester a également été le théâtre d'une manifestation massive de soutien à Gaza. Des milliers de manifestants à Paris pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. À Paris, en France, des dizaines de milliers de personnes ont aussi manifesté en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Répondant à un appel du collectif Urgence Palestine, soutenu par la France Insoumise et les FI, les manifestants qui brandissaient des affiches clamant « Sauce Gaza » et des drapeaux palestiniens sont partis de la place de la République et ont achevé leur marche vers 17h sur la place de la Bourse. Ils scandaient « Stop génocide »,« Israël l'apartheid »,« Boycott » ou encore « Free Palestine ». Le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, la tête de liste du parti aux élections européennes, Manon Aubry et Rima Hassan, qui figurent aussi sur cette liste, étaient présents dans le cortège. À Lyon, environ 750 personnes, selon la préfecture du Rhône, ont manifesté dans le centre-ville, derrière une grande banderole, levée du siège criminel de Gaza. Une marche pour la paix de 36 kilomètres. La distance entre la ville de Gaza et Rafah a aussi été organisée au départ de Strasbourg. À Nantes, 800 personnes ont manifesté dans le calme. Selon la préfecture de Loire-Atlantique, la maire PS de la ville, Jonah Roland, a écrit sur X, présente à la manifestation à Nantes cet après-midi pour demander un cessez-le-feu immédiat, 30 000 morts et la famine à Gaza. Le massacre des populations civiles doit cesser. En Suède, des manifestations similaires se sont déroulées dans plusieurs villes, dont Borås, Kristianstad et Göteborg. Des milliers d'Italiens ont participé à une manifestation nationale à Rome organisée par le syndicat CGIL contre la guerre en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et d'une prix juste au Moyen-Orient. Les manifestants ont marché depuis la Piazza della Repubblica jusqu'au Forum Imperio en brandissant des drapeaux syndicaux et palestiniens. À Jakarta, la capitale de l'Indonésie, des milliers de personnes se sont rassemblées pour condamner la poursuite des massacres du régime sioniste dans la bande de Gaza. Des manifestations similaires ont été organisées dans de nombreuses villes d'Allemagne et du Danemark, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Séoul, la capitale sud-coréenne, Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine et Tunis, la capitale de la Tunisie, ont été aussi le théâtre de manifestations en faveur de la Palestine. En Amérique du Nord, à Ottawa, la capitale du Canada, les manifestants pro-palestiniens ont également dénoncé les crimes et l'occupation du régime sioniste. Ils ont appelé à la fin de la politique de deux poids deux mesures de Tel Aviv, réclamant la traduction en justice du régime sioniste pour le massacre de milliers de Palestiniens, en particulier des enfants. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi. Je vais discuter et me pencher avec nos deux experts qui nous rejoignent tout de suite après un reportage sur les évolutions ukrainiennes, la guerre en Ukraine. Le Kremlin accuse le président français Emmanuel Macron d'accroître l'implication directe de la France dans le conflit. Alors depuis le 26 février, une déclaration d'Emmanuel Macron a placé la guerre au cœur du débat politique en ce qui concerne la guerre ukrainienne. Jusqu'où la France d'Emmanuel Macron et l'Europe sont prêts à intervenir et soutenir la guerre ukrainienne contre la Russie? Il s'agit de discussions, de simples discussions, où la vraie menace avancée depuis Paris. On va répondre à ces questions avec nos deux experts. Tout de suite, un petit reportage. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après.
Le porte-parole du Kremlin a estimé que le président français augmentait l'implication directe de la France dans le conflit en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron entraîne de plus en plus son pays dans les combats en Ukraine, ce qui n'est absolument pas dans l'intérêt de son peuple, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Dans une vidéo diffusée sur Telegram par un journaliste russe jeudi 7 mars, le porte-parole du Kremlin a estimé qu'Emmanuel Macron augmentait l'implication directe de la France dans le conflit en Ukraine après ses propos n'excluant pas l'envoi des troupes occidentales sur place. Monsieur Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France, a-t-il déclaré avant d'ajouter, De notre point de vue, cela ne correspond en aucun cas aux intérêts des Français. Le porte-parole du Kremlin a noté le caractère contradictoire des déclarations faites à Paris à ce sujet depuis les premiers propos de M. Macron. D'un côté, M. Macron commence à discuter de la possibilité d'envoyer des contingents militaires dans la guerre en Ukraine. De l'autre, le ministre des Affaires étrangères français nie catégoriquement la possibilité d'envoyer de tels contingents, a-t-il déclaré. À l'issue d'une conférence de soutien à l'Ukraine qui a eu lieu en présence des responsables de haut rang, venu de 20 pays le 26 février à Paris, le président français avait déclaré « Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Il faut mettre en échec la Russie sans lui faire la guerre », a dit mardi 5 mars le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné dans un entretien accordé à LCI. Le chef de la diplomatie française s'exprimait après les déclarations du président français Emmanuel Macron, qui a jugé plutôt mardi à Prague nécessaire de bousculer les alliés de l'Ukraine, les exhortant à ne pas être lâches face à une Russie devenue inarrêtable.
Voilà, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau par Skype Maître Elie Hatem. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Hatem. Voilà, immense plaisir aussi pour avoir parmi nous Maître Arnaud Devlet. Ravi de vous retrouver, Monsieur Devlet. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Maître Hatem.
Bon, je rappelle que vous êtes tous deux analystes politiques et juristes. On commence par vous, Maître Devlet. Alors, s'agissant du conflit russo-ukrainien et l'intervention, l'implication de l'Europe, alors, discussion ou vraie menace d'après vous suite aux déclarations d'Emmanuel Macron, pourquoi Emmanuel Macron agite le spectre de l'envoi de troupes au sol alors que visiblement il y a des divisions, même l'OTAN n'a pas soutenu cette option avancée par le président Macron?
Et écoutez, je pense qu'en fait il n'y a pas de division, que Emmanuel Macron a juste fait l'erreur de révéler au grand jour. Ça, après, c'est quelque chose qui aurait à voir avec son profil psychologique. Les vraies intentions de l'OTAN, pour moi, il n'y a pas de différence de la taille d'un papier à rouler cigarette entre ce qu'on peut penser à Paris, ce qu'on peut penser à Berlin, ou dans toute autre capitale, inféodée à Bruxelles et partant de là à Washington. Le problème actuellement, c'est qu'à Washington, vous avez un package de 60 milliards de dollars qui est bloqué au niveau de la Chambre des représentants. Mais que malgré cela, il y a une pression énorme sur le porte-parole de la majorité républicaine, donc à la Chambre des représentants, Mike Johnson, et qu'à l'heure où nous parlons, ils sont en train de discuter d'une proposition, d'un projet de loi qui serait politiquement acceptable aux républicains concernant donc le renforcement de la frontière au sud, mais qui permettrait effectivement l'envoi de cette somme d'argent. Donc, pour l'instant, l'Europe se contente de prendre le relais. Il y a des discussions qui porteraient sur l'appropriation ou la mise à appropriation, je devrais dire, d'une partie des 300 milliards de dollars des avoirs russes qui ont été confisqués pour l'instant, mais qui sont de plus en plus discutés comme faisant, permettant à l'Europe de financer, de continuer à financer la clique de Zelensky. Mais précisément, il y a aussi cette idée de déployer de manière officielle cette fois-ci des troupes des pays membres de l'OTAN dans des régions telles que la Moldavie. Je rappellerai à nos auditeurs que des discussions ont eu lieu récemment, il y a quelques jours, entre la première ministre de ce pays et Emmanuel Macron. Que la même chose, ça fait écho à ces rapprochements entre Paris et Yerevan. Donc tout est fait pour au contraire faire monter les tensions et donner un habillage juridique à un déploiement des forces de l'OTAN, officiellement pour préserver le statu quo, et certainement sur un plan militaire tactique pour empêcher le corridor qui mène donc des zones qui ont rejoint la Russie, d'être connecté avec Odessa, ce qui couperait Kiev de l'accès à la mer essentiellement. Et donc en déclenchant des opérations en Transnistrie, en essayant de provoquer la Russie à intervenir pour protéger la population russophone de cette région de la Moldavie, l'OTAN pourrait ensuite avoir le prétexte pour intervenir jusqu'à Odessa essentiellement, couper l'armée russe d'Odessa. Donc c'est extrêmement dangereux. Dominique de Villepin lui-même s'est exprimé sur le sujet hier sur BFM TV. Un peu la seule voix dissonance en ce concert de fous furieux à Paris, en expliquant ce que beaucoup d'entre nous savent depuis des décennies, à savoir que à partir du moment où dans la grammaire de la dissuasion stratégique, deux États nucléaires sont directement confrontés, l'escalade peut rapidement dégénérer.
Merci beaucoup. Eliatem, alors le Kremlin accuse le président français Emmanuel Macron d'accroître l'implication directe de la France dans la guerre ukrainienne, alors dans le conflit russo-ukrainien. Quelles étaient les réactions en France? Déjà, je rappelle que la colère des agriculteurs évoquait cette question de l'aide ukrainienne au détriment des intérêts nationaux des Français, des agriculteurs. Quelles étaient les réactions en France?
Bien entendu, parce que comme vous l'avez souligné, les agriculteurs obtiennent 10% des sommes octroyées par la France, supposées être octroyées, ou proposé pour aider l'Ukraine. Donc aujourd'hui, cette déclaration démontre qu'il y a une véritable, je dirais, politique masochiste de la France. Ceci dit, il faut rappeler le contexte donc, de cette phrase, c'est que c'est venu au moment où les États-Unis sur la scène internationale s'attendent à un recul pendant le laps de temps, pendant les élections présidentielles. Donc il y a une campagne présidentielle qui va se préparer. Emmanuel Macron a voulu profiter de cette période pour faire comme il a fait en 2017, qu'on parle de lui dans les médias et sur la scène internationale. Et moi, donc, je me souviens quand il y a eu cette déclaration, j'étais à Moscou. Et j'étais en réunion avec le ministre Sergueï Lavrov. Et quand il m'a interrogé sur cette phrase, je lui ai dit, c'est une parole, je dirais, un peu en l'air, à laquelle nous sommes habitués, parce que le président Macron, vous vous souvenez, il avait fait une déclaration un peu identique en ce qui concerne l'aide de la France à fournir à l'entité sioniste pour lutter contre le Hamas ou pour finir avec le Hamas, sur laquelle il est revenu quelque temps plus tard. Et c'est la même chose, c'est que cette déclaration, elle a été faite, après il est revenu, où il n'est pas lui-même, mais la France et le gouvernement, sur le terme utilisé par le chef de l'État. Est-ce que c'est l'envoi de troupes ou c'est l'envoi, en fait, d'un contingent ou d'une aide militaire à l'Ukraine? Donc ça a mis en mal à l'aise le gouvernement et nous avons vu que le ministre des Affaires étrangères, il a essayé de rectifier le tir en disant que ce n'est pas l'envoi de troupes que le président entendait faire ou dire, mais c'était une aide militaire, ça peut être des aides logistiques pour l'armée ukrainienne. Mais ceci dit, encore une fois, en quel intérêt la France a-t-elle pour aider l'Ukraine? Aujourd'hui, nous avons vu quand même que, d'une part, comme vous l'avez souligné, les agriculteurs, il y a des problèmes financiers, économiques en France qui sont dus à cette participation de la France à cette guerre qui ne rapporte rien, que les problèmes de l'inflation, les problèmes économiques, la cherté de la vie, tous les prix ont augmenté en Occident à cause en particulier de la guerre en Ukraine. Si véritablement il y a une solution pour régler le problème, le conflit ukrainien, cela devait se faire d'une manière, je dirais, diplomatique et trouver une solution pour apaiser la tension entre les deux. Mais on le sait très bien que cette guerre, c'est une guerre des États-Unis contre la Russie sur le territoire ukrainien, en entraînant tous les pays de l'Europe occidentale qui sont membres de l'OTAN dans cette offensive et qui a déclenché, qui a eu comme conséquence une situation économique catastrophique. Maintenant, s'il y a un danger qui pèse sur la France et sur l'Union européenne, c'est la question de Gaza, c'est la question palestinienne. Si aujourd'hui Israël va exterminer et va provoquer de plus en plus la déportation de Palestiniens qui vont sortir donc de leur propre territoire, il y aura un risque de trouver de nouveaux réfugiés et qui vont être également envoyés en Europe. Donc c'est plutôt dans l'intérêt de la France d'aller envoyer un contingent pour protéger les Palestiniens contre ces actes, au lieu d'envoyer des forces et des troupes pour aider les Ukrainiens contre les Russes. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine logique. Mais encore une fois, cette déclaration était une pure, je dirais, déclaration de propagande médiatique pour qu'on reparle du président Macron, parce qu'il a perdu de son audience au niveau de l'opinion publique, aussi bien interne en France qu'au niveau international. Il pensait donc faire comme il a fait en 2017 pour qu'on parle de lui, qu'il fasse une agitation et qu'il pourrait revenir sur cette déclaration. Mais le plus important, c'est qu'on parle de lui, comme le disait le général de Gaulle. Si on parle de bien ou de mauvais de vous, le plus important, c'est qu'on parle de vous dans les médias.
Merci beaucoup. Merci. Maître Devlé, alors on va encore développer le sujet avec ces propos du président Macron. Pour Macron, il n'y a aucune ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine. Je cite ces mots, aucune ligne rouge dans ce soutien de la France à l'Ukraine contre la Russie, des déclarations qui ont suscité l'opposition et l'ire depuis Moscou et depuis de la part de l'opposition française. Alors, dites-nous s'il vous plaît, pourquoi cette guerre entre l'Ukraine et la Russie est si importante pour la France ?
Ben, écoutez, tout simplement parce que la défaite en Ukraine, donc du régime sur le papier, en tout cas officiellement du régime de Zelensky, signifie la défaite stratégique de l'OTAN, essentiellement.
Mais il y a des divergences. Je rappelle qu'il y a des divergences, selon les médias, entre d'autres puissances européennes, comme notamment l'Allemagne, avec la France sur ce sujet. Donc c'est la France qui est va-t-en-guerre et isolée.
Oui, mais je vous rappellerai que des interceptions... cette interception radio ont exposé un plan au plus haut niveau d'état-major allemand de procéder à des frappes du pont Crimée. Donc vous voyez, d'un côté, ils laissent entendre qu'ils ne vont pas livrer les missiles à longue portée aux Russes. Mais après, on s'aperçoit finalement qu'ils ont l'impression de jouer l'escalade. Et d'ailleurs, Pistorius a essayé de, si je puis dire, sauver les meubles après les révélations. Mais ces enregistrements sont accablants et ils montrent bien qu'au contraire, dans toutes les capitales européennes, on joue l'escalade, parce qu'encore une fois, il s'agit de la défaite stratégique de l'OTAN. Et partant de là, des États-Unis, puisque l'OTAN, ce sont les États-Unis essentiellement. Je renverrai nos auditeurs à un discours de l'État de l'Union de Biden. Biden a tenu des propos absolument ahurissants. Tout ce qu'on retient de ce discours, essentiellement, c'est il faut absolument confronter Poutine. Poutine va s'emparer de l'Europe. C'est un discours alarmiste, c'est un discours de peur. Partant de là, il a dû tromper le Congrès d'adopter cette aide militaire à Zelensky. Donc, tout est parfaitement cohérent. Que ce soit le discours au plus haut niveau à Washington, que ce soit les déclarations de Macron, qu'on peut considérer effectivement comme un contre-feu à la situation, à l'épisode, à la séquence médiatique au Salon de l'agriculture, certes, mais il y a fondamentalement, à défaut d'absence de ligne rouge, il y a une ligne directrice qui est celle du camp atlantiste qui essaye de sauver les meubles essentiellement, parce qu'ils savent très bien qu'avec la défaite de l'Ukraine, ce sera essentiellement la défaite de l'OTAN. L'OTAN ne sera pas en mesure de justifier sa raison d'être si elle n'est pas en mesure de protéger un pays qui aspire à rejoindre l'Alliance comment peut-il par la suite convaincre ses membres que les résultats seront différents si l'un de ces derniers venait à faire l'objet d'une agression. Donc ça ne tient absolument pas la route de voir les choses. Il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. Les Occidentaux, depuis 20 ans, nous ont habitués à des discours, on va dire, alambiqués, en laissant entendre que toutes les options sont sur la table, qu'il y avait peut-être moyen de... Vous voyez, mais à la fin, ils passent toujours à l'action parce que ça fait partie de cette façon de penser qui habite les élites occidentales depuis la fin de la guerre froide. Ils essayent de sauver le monde unipolaire et quelque part, je pense qu'ils sont prêts à tout pour ce faire.
Merci. Maître Atem, alors, avec le président Macron, nous avons une politique d'en même temps, selon lui-même, dont il parle. Également, on assiste ces derniers jours et suite aux déclarations du président Macron tenues le 26 février dernier. Alors, un caractère contradictoire des déclarations faites à Paris, à l'Élysée, à ce sujet, depuis les premiers propos de M. Macron. D'un côté, Emmanuel Macron commence à discuter de la possibilité d'envoyer des contingents militaires sur le sol ukrainien. De l'autre, le ministre des Affaires étrangères français qui intervient et nie catégoriquement cette possibilité d'envoyer de tels contingents, de troupes. Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, mais comme je vous l'ai dit, en fait, cette déclaration donc faite par le président Macron, il y a deux possibilités. Soit il a glissé le mot sans en être vraiment, sans le posséder, sans vouloir avoir cette intention de parler de troupes militaires, soit il l'a fait dans un objectif médiatique, en fait, de se faire entendre, comme je le disais, et qu'on parle de lui dans les médias, dans l'opinion publique internationale et dans les médias internationaux, c'est qu'il y aura une répercussion sur la France et qu'il revienne, en fait, sur scène, parce que nous avons assisté, depuis surtout le début de son mandat, à une diminution de son poids politique, aussi bien d'un point de vue interne en France qu'au niveau international. Alors, je ne pense pas que c'est une déclaration pensée, c'est une déclaration, je dirais, où il y a eu faite à l'issue d'une concertation entre lui et l'OTAN. Surtout que nous avons vu quand même la réaction aussi bien des États-Unis qui sont, comme M. De Velay l'a très bien démontré, à la tête de l'OTAN et qui se permettent elles-mêmes, c'est-à-dire les États-Unis, de décider, de prendre la décision. Ils n'en attendent pas la France pour prendre cette décision. Donc il y a eu une critique de la part des Américains relativement à cette déclaration, mais également, il y a eu également de la part des Allemands qui sont particulièrement impliqués dans la guerre contre l'Ukraine au sein même de l'OTAN. Ils ont critiqué cette déclaration et puis ils ont critiqué cette possibilité à laquelle le président français a fait référence. Donc, et comme vous l'avez dit dernièrement, dernier point, c'est que même le ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, a nié donc cette intention d'envoyer des troupes d'un contingent. Il a parlé éventuellement, le président voulait dire dans sa déclaration, plutôt l'envoi donc d'une aide militaire, comme ça a été le cas depuis le début de ce conflit ukrainien. Donc la question qui se pose, c'est que s'agissait-il d'une déclaration réfléchie du chef de l'État ou bien d'une phrase prononcée sans avoir l'intention de le dire.
Merci beaucoup. Mais Sauvé, alors, à travers de ces déclarations d'Emmanuel Macron s'agissant de l'envoi de troupes et l'option au sol, alors, de toute façon, on voit un nouvel élément de menace qui, à mon avis, alors, et d'après un grand nombre de commentateurs, c'est pas par hasard qu'il a évoqué. Alors, où sommes-nous avec les évolutions du conflit russo-ukrainien? Pourquoi on parle désormais de cet élément de menace qui est très important?
Écoutez, dans l'état actuel des choses, le front est peut-être à quelques semaines.
Mais, nous avons 2 minutes devant nous, alors oui. Merci.
veut dire que la Russie a essentiellement gagné la guerre. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'hommes du côté ukrainien pour mener les opérations. Au niveau d'artillerie et des obus, c'est pratiquement la pénurie totale. Donc, en l'état actuel des choses, on se dirige vers une capitulation de l'Ukraine. Donc, il s'agit avant tout de prolonger le plus possible, au prix de vies humaines inutilement sacrifiées, un conflit qui n'a plus de raison d'être sur un plan purement militaire. Et si cela requiert ouvrir un nouveau front, comme ça semble se diriger, le déploiement officiel de troupes des États membres de l'OTAN seront utilisés comme des dispositifs pour ce faire. Maître Ateb a très bien résumé la situation quand il parlait de Gaza. Gaza n'est juste qu'un autre front qui a été ouvert, mais l'objectif des forces OTAN-Atlantiques, c'est de créer autant de fronts que possible pour justement, si je puis dire, essayer de renverser la dynamique qui pour l'instant n'est pas en leur faveur.
Arnaud Dovlé, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat. Merci également à Maître Atem qui est intervenu à ce débat. Merci de votre fidélité, amis téléspectateurs. Au revoir, à la prochaine.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, merci de nous rejoindre sur une nouvelle édition de l'Afrique économie depuis la capitale iranienne, Téhéran. Nous allons passer en revue l'actualité économique africaine. Restez avec nous. Au Burkina Faso, le régulateur télécom met en place un cadre de concertation avec certains acteurs du secteur. Le régulateur télécom burkinabé multiplie les initiatives pour améliorer la régulation du marché et accélérer son développement. Il a déjà mis en place un cadre de concertation avec les opérateurs de téléphonie mobile. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Burkina a créé le mardi 5 mars un cadre de concertation avec des acteurs de l'écosystème autres que les opérateurs. Il s'agit notamment des opérateurs de vente de capacité, des fournisseurs d'accès Internet FTTH et des fournisseurs d'infrastructures. La mise en place de ce cadre vise à créer les conditions d'une interaction entre l'ARCEP et les opérateurs de vente de capacité de fourniture d'accès Internet FTTH et d'infrastructure. La société nigérienne des pétroles jouera désormais un rôle beaucoup plus actif dans le secteur pétrolier du Niger, particulièrement dans le segment amont. C'est ce qu'il ressort de l'adoption dimanche 3 mars de deux projets de décret pris en Conseil des ministres. Ces textes de loi approuvent d'une part l'implication de la société d'État dans deux contrats de partage de production, dont le premier concerne les blocs pétroliers R5, R6. Et R7 de la zone d'intérêt d'Agadem. Quant au second contrat, il est en lien avec le bloc pétrolier Bilma, dont les réserves prouvées suscitent l'intérêt du gouvernement pour des travaux de développement pouvant aboutir à une exploitation du site. L'implication de la SONIDEP en tant qu'opérateur national dans ces projets s'inscrit dans une ambition du gouvernement nigérien visant à renforcer en accord avec la législation la participation de l'État dans la recherche et l'exploitation du pétrole et du gaz. Le chinois Sinomine diversifie sa présence en Afrique avec le rachat d'une fonderie à 49 millions de dollars. La fonderie de Sump en Namibie dispose d'une capacité de production annuelle de plus de 200 000 tonnes. Détenue actuellement par Dundee Precious Metals, elle devrait bientôt entrer dans le portefeuille du chinois Sinomin, déjà actif dans l'exploitation du lithium au Zimbabwe. En Namibie, le Canadien Dundee Precious Metals a annoncé le 7 mars la vente de sa fonderie Sumé à Sinomin Ressources. Prévue pour être bouclée au troisième trimestre 2024, la transaction évaluée à 49 millions de dollars permet au groupe chinois de diversifier sa présence dans le secteur minier africain. Sinomin est en effet surtout présente dans le secteur minier du Zimbabwe où la compagnie exploite depuis 2022 la mine de lithium de Bikita dans ce pays. Les acteurs mondiaux du développement durable échangent sur la manière dont prospérer grâce au TIC verte. Huawei a organisé le Green Development Summit sous le thème Prospérer avec les TIC vertes lors du MWC Barcelone 2024. Lors du sommet, des invités de l'Union internationale des télécommunications, du groupe MTN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de l'autorité des TIC du Kenya et de l'Institut de technologie de Bandung en Indonésie ont échangé sur la manière dont la technologie numérique peut être utilisée pour promouvoir le développement durable et permettre l'avènement d'un monde numérique inclusif et durable. Jeffrey Zhou, président of ICT Marketing Huawei, a souligné dans son discours que la technologie numérique est devenue un élément clé du développement durable à l'échelle mondiale. En Côte d'Ivoire, le Japon octroie 17 millions de dollars en soutien au développement du terminal céréalier du port d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux importateurs de céréales en Afrique de l'Ouest avec le Nigeria et le Sénégal. Depuis 2020, le pays a entamé un projet de construction et de développement d'un nouveau terminal céréalier dans le port d'Abidjan pour en améliorer la capacité de manutention. En Côte d'Ivoire, Kassou-Léon Adom, ministre des Affaires étrangères, a signé le 7 mars un accord de financement de 10,2 milliards francs CFA avec Ikata et Katsuya, l'ambassadeur du Japon près le pays. Cette enveloppe est destinée à financer la deuxième phase de développement du projet de construction du nouveau terminal céréalier du port d'Abidjan entré en service en mai 2023. Selon les informations relayées par l'agence ivoirienne de presse, ce nouvel appui financier vise spécifiquement la construction de la tour de surveillance indispensable pour la gestion du terminal céréalier. Ce prêt s'inscrit dans le souci d'apporter une réponse à la demande croissante d'approvisionnement en céréales aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les pays de l'Interland de la région sahélienne et de stimuler la distribution de denrées alimentaires dans la sous-région, indiquait M. Ikatai. En Guinée, Diaoné Agro-Industrie envisage d'investir 1 million de dollars dans une usine de transformation d'anacarte. En Guinée, la noix de cajou est le principal produit agricole d'exportation. Comme dans la majorité des pays producteurs d'Afrique de l'Ouest, le faible niveau de transformation de la noix offre des opportunités d'investissement pour les opérateurs locaux et étrangers. En Guinée, la société Diaonoué Agro-Industrie, principal transformateur de noix de cajou du pays, prévoit de construire une nouvelle usine dans la ville de Boké. Dans le nord du pays, l'annonce a été faite au cours de l'édition 2024 du Guinea Investment Forum qui s'est tenu les 5 et 6 mars dernier à Conakry. D'un coût total de 11 millions de dollars, ce nouveau projet sera cofinancé à part égale par l'Agence américaine de financement pour le développement international et l'entreprise elle-même. Selon les informations relayées par les médias locaux, les deux parties ont d'ailleurs signé un accord de financement à cet effet.